Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. Tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour et bienvenue dans Libre Débat. Cette semaine, je vous propose d'écouter l'épisode 30 de Chronique amère, une chronique d'actualité et d'analyse des frontières et de leurs conséquences meurtrières réalisée par des membres du réseau Harlem Phone. Ensuite, on continuera avec un podcast glané dans le réseau des rencontres des radios libres, Libérer Gino, une émission du comité de soutien contre l'extradition de Gino réalisée par le studio son de la parole errante et qui retrace le cas de Gino, militant antifasciste, détenu à Fresnes depuis 3 mois déjà, en attente de la décision concernant son extradition ou pas vers la Hongrie. Tout de suite, l'épisode 30 de Chronique amère sur Bosofi, une association implantée au Sénégal à Dakar. Bonne écoute.
Alarm phone, hello.
Hola.
Salam alaikum.
Allô, bonjour.
Alarm phone,
c'est Alarm phone.
How are you, my friend?
How many are you on?
Can you hear me?
Est-ce que vous m'entendez?
Okay, can you,
can you give
me your GPS position?
Chronique amère.
Chronique à
Chronique amère.
Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarm phone.
Freedom, I don't need them. Where's your freedom?
Combien de personnes êtes-vous sur le bateau?
Can you hear me?
What kind of boat are you on?
How many are you on the boat?
Keep calm, keep as calm as you can.
Okay, I call you back.
ما هو لون القارب؟
Je vous rappelle.
Let's try calling again, because right now I can't hear anything.
La Méditerranée est devenue un cimetière.
Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée.
Parce que la mer Méditerranée est une frontière.
Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
Parce qu'en 2023, 3129 personnes sont mortes ou disparues en traversant.
260 personnes par mois.
782 personnes par semaine.
Près de 9 personnes par jour.
Et bien bien plus dont on ne sait rien.
Rien qu'une fois, faire les vagues et tout casser rien qu'une fois.
Parce que des histoires existent derrière les chiffres.
Parce que ces histoires doivent être racontées.
Parce qu'on veut continuer à lutter.
Parce qu'on ne veut pas oublier.
Parce qu'on ne veut pas s'habituer.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Parce qu'on savait.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de Chronique amère. Une chronique mensuelle où l'on raconte ce qui se passe aux frontières maritimes de l'Europe et toujours depuis Alarm Phone. Bosofi, c'est une association implantée à Dakar, au Sénégal. Bosofi fait partie des projets sœurs d'Alarm Phone. Ce qu'on appelle les projets sœurs, ce sont des collectifs, des associations, des campagnes qui sont proches des activités du réseau. Parfois, s'y trouvent des personnes qui sont aussi membres d'Alarm Phone. Parfois, il est même difficile de dissocier clairement les structures, tant leurs actions sont liées, se complètent et se prolongent. C'est un peu le cas de Bosofi. En octobre dernier, 150 militantes d'Alarm Phone se sont retrouvées à Dakar pour le grand meeting des 10 ans du réseau. Pendant une semaine intense, rythmé par les réunions et les événements publics, nous avons été accueillis et logés dans le quartier de Cité Apix, à Tivaouenpeul, où se trouvent les locaux de Bosofi. Alors on a eu envie de vous emmener à Cité Apix et de vous faire entendre cette histoire, l'histoire de Bosofi, racontée par celles qui en font partie.
Bosofi, c'est une association qui est pilotée par des migrants de retour, et aussi des militants des droits humains. Boza, c'est un cri de liberté pour les migrants quand ils traversent la Méditerranée.
On a Boza Free,
C'est un mot patois camerounais. Les gens qui sont durés pendant des années sur les frontières sont eux qui l'utilisent plus quand ils réussissent à traverser pour arriver dans l'autre rive.
Fi, c'est un mot sénégalais qui veut dire ici.
Donc, boza fi, c'est réussir ici.
La plupart des membres de Boza étaient au Maroc, dans les forêts, avec des Camerounais, des Tchadiens, des Nigériens, pour essayer de trouver une pirogue pour aller en Espagne. Dans cette forêt, on dit que les Sénégalais, vous avez votre hospitalité, vous préparez bien, donc on vous confie la tâche de préparer le repas. Et on dit, les Camerounais, quelle est votre spécialité? Les Camerounais nous disent qu'eux, ils ont la possibilité de créer des codes en parlant pour que les gens marocains ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Donc, raison pour laquelle nous, quand on était là-bas, on a pris ce mot, Boza, et l'a amené ici au Sénégal en mettant le fi ici. Donc, réussir, c'est ici.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire la visite de votre boutique pendant qu'on vous enregistre?
Mais bien sûr, avec plaisir. Suivez-moi.
Je m'appelle Salé Diouf, nom de naissance, et actuellement, jusqu'à présent, je m'appelle Salé Diouf. Moi, je suis le président fondateur de l'association Bozafi. Je l'ai créé en 2019-2020, on a commencé nos activités. D'après une expérience que j'ai vécue pendant plus de 5 ans au Maroc avec le réseau Alamphone. Pendant longtemps aussi, avant que je quitte le Sénégal, j'étais ici dans les comités de lutte. Quand je suis parti aussi, bon, je travaille un peu dans les réseaux militants. Je me suis retourné et bon, j'ai décidé de créer Bozafi avec l'accompagnement de beaucoup de mes amis avec qui j'ai connu au Maroc et d'autres avec qui j'étais ici. Pour un peu parler des politiques migratoires du Sénégal, on avait besoin de tenir une communication, tu vois, beaucoup plus claire et beaucoup plus exacte par rapport à la communication de la migration.
Je suis Aïda Cham, journaliste de formation, membre de Bozafi. J'ai intégré Bozafi en février 2022. On m'avait invité dans un événement qui se passait à Gorée. C'était une commémoration. Et ce jour-là, j'étais venue en tant que journaliste. Mais après, ça m'a un peu motivée et j'ai vu comment la migration touche tout le monde. Je me dis que moi, quand j'ai envie d'aller en Europe, mais pourquoi je n'ai pas le droit de partir comme tout le monde? C'est un peu ce qui m'a poussée à intégrer Bozafi.
Je m'appelle Alassane Sow, plus connu sous le nom de Didier Luz. Je suis un animateur, présentateur télé-radio. Je fais partie de la cellule chargée de la communication de l'association et j'ai intégré Bozafi par le biais d'un ami. C'était dans mon plateau de télévision. Cet ami était ce jour-là mon invité. On parlait de tout et de rien, de liberté de circulation. Il m'a suggéré l'association Bozafi. Il m'a fait savoir qu'il en faisait partie et que cette association milite un peu pour la liberté de circulation des personnes et des biens et aide des personnes en sauvant des êtres humains, en sauvant des vies. Et je suis tombé amoureux et là, automatiquement, je suis venu rejoindre la famille et jusqu'à maintenant, je travaille et je contribue le jour pour l'avancement de cette association.
Je m'appelle sur surnom Chico, mais mon vrai nom c'est Cher. Je m'occupe surtout pour faire des éclaircissements quand il y a des jeunes qui font des demandes comment on va partir. Que j'essaie de les expliquer que vous ne partez pas à la paradis. Et là que vous partiez, vous allez plus souffrir que ce que vous pensiez. Je m'occupe sur la réglementation des factures et le contrôle du budget. Je suis parti d'ici au Sénégal en 2004, j'avais que 14 ans à ce temps-là. J'étais toujours envie de rester ici et de réussir ici et de ne jamais sortir d'ici. Mais comme j'avais des parents qui vivaient là-bas, on m'a fait un regroupement familier et je les ai rejoints là-bas. Et j'ai fait le reste de mon parcours en Europe. J'ai vécu là-bas presque 10 ans. Et sur ça, ils sont venus me prendre un bon lundi comme ça, dans mon lieu de travail, sans aucun problème. Et ils m'ont pris, ils m'ont fermé pendant 15 jours dans une prison de déportation. Et arrivant à l'aéroport, là que la police frontière m'a expliqué, OK, que... Et on va vous amener vers Sénégal. Je suis rentré sur Bouzafi grâce à un contact en allemand. Et celui qui m'a mis en contact avec Saliou. Et quand j'avais des problèmes de déportation, il m'a expliqué que oui, Saliou il a une association là-bas. Ils combattent sur ça, ils ont mis leurs pieds fermes sur ça. Et moi, je me suis dit que moi aussi, je vais faire partie de ça. Et... Ouais.
Je m'appelle Omar Diop, mais on m'appelle DJ, DJ Omzo. Dans Bouzafi, je suis le chargé de communication. Je suis un animateur de radio déjà. J'étais à Afia FM, maintenant je suis à Pindi Media. J'ai même démissionné de ce travail pour me concentrer de Bouzafi et d'Alarm Fou. J'étais dans des actions sociales, dans mon quartier. J'ai organisé là-bas une association qui s'appelle Son et Lumière, qui milite pour les personnes diabétiques, par exemple. J'organise des conférences religieuses, des conférences sur l'éducation. Je faisais aussi des dons de moustiquaires gratuites. Donc, Bouzaz sont venus me rencontrer en me disant que ce travail-là que tu fais, nous, nous faisons ça. Est-ce qu'on peut travailler ensemble?
Ça s'appelle Polo, c'est vous. En France, vous dites polo, ça c'est la cause ici. Voilà les abayas des Marocains, ça s'appelle Djalaba. Ça aussi, c'est le truc des... C'est vous, on a créé ça pour les Toubab. C'est joli. Ça aussi, c'est des robes sexy pour l'été. Voilà. On part à Dakar pour acheter ça. C'est ça, lui qui va aller acheter avec sa propre l'argent et venir... déposer pour qu'on va pour la cesse des Beaux-Arts.
Ici au Sénégal, c'est devenu en un temps record, tellement de jeunes ont perdu leur vie. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes, à un moment donné, vivent un tel calvaire qu'ils ne peuvent plus rester chez eux.
Bon, pourquoi les gens partent en mer, c'est peut-être, comment dirais-je, le programme de, comment dirais-je, du suspens des visas. On a constaté ici au Sénégal que l'ambassade d'Espagne nous a dit qu'en 2024, rien qu'en 2024, l'ambassade a rejeté 60 000 demandes de visa. Et vous savez que les demandes de visa, les visas sont payants. Il y a des frais de dossier qui vont jusqu'à 60 000 minimum. Si tu multiplies ça par 60 000 demandes, égale 3 milliards 600 millions de francs CFA. L'ambassade d'Espagne a encaissé 3 milliards 600 millions cette année en 2024 et n'a pas délivré de visa. Il nous a dit qu'il a délivré plus que 45% des demandes. Donc imagine les visas rejetés, la somme. L'ambassade de France fait ça également. Belgique, Portugal, Allemagne, etc. etc. Donc combien de milliards l'Union européenne récolte sur les jeunes et ne leur délivre pas de visa? Mais les jeunes qui prennent la mer, s'ils avaient des visas, ils ne vont pas prendre la mer. Parce que le billet d'une pirogue coûte deux fois plus cher que le billet d'un avion Dakar-Espagne.
L'idée qui m'a boosté à créer ce projet, c'était, bon, je suis revenu au Sénégal et j'entendais très souvent des mamans ou bien des papas qui demandaient des informations, bon, ou bien qui disaient que leurs fils sont partis depuis longtemps, ils n'ont jamais eu d'informations par rapport à ça. Et comme J'étais au Maroc, je travaille un peu sur les dépouilles des corps. J'enterrais les migrants une fois que la mer les rejetait. J'étais en train de faire les identifications pour un peu faire des retours aux parents. Mais aussi, il y avait des cas qui venaient avec des situations très avancées de décomposition. On n'arrivait pas à les identifier. Bon, du coup, on les enterrait comme ça sans les identifier. Et quand je suis revenu, si j'entendais des parents qui demandaient leur fils, qui disaient que les enfants sont partis, ça fait longtemps, bon, ils n'ont pas eu de nouvelles d'eux, automatiquement des idées commençaient à me traverser la tête. Je sentais tout simplement l'absence de cette communication de la population, des acteurs, des autorités par rapport à cette situation de disparition. Et j'ai décidé de créer cette association pour un peu parler de ces questions de disparition et de mort en Méditerranée. Je suis un enfant de la banlieue. Mes parents, ils ont une maison ici dans la banlieue. J'ai grandi dans la banlieue. Et Cité Apix, c'est vrai que même quand j'ai quitté le pays, Cité Apix n'existait pas.
C'est un quartier qui est jeune, qui n'a même pas fait 20 ans. Il y avait des champs, on cultivait ici même des arachides et tout. Mais on l'a lotissé 10 ans en arrière ou 15 ans même en arrière. Donc c'est un quartier très jeune, donc il n'a pas beaucoup d'histoire. Donc on a créé cette cité pour l'appeler Cité Apix et on l'a collée dans une commune qui s'appelle la commune de Tioanpol. Donc la mairie de Tioanpol même a délocalisé sa mairie ici à Apix, a construit ici son bâtiment. Donc Apix commence à grandir elle aussi. Ensuite, ici à Boza, c'est de reculer un peu par rapport à les autorités qui nous persécutent, qui ferment même nos comptes Facebook, nos comptes Instagram, et essayer de nous mettre sur écoute. Donc pour ne pas être brutalisé, on s'est dit de se replier un peu, reculer un peu vers Apix. Peut-être là, c'est beaucoup plus calme, on peut faire notre travail à l'aise.
Le local a toujours été ici, à Cité Apix. Au début, c'est Salut qui vivait seul dans le siège. Mais après, les gens viennent petit à petit, surtout par exemple ceux qui sont déportés. Quand ils arrivent, il reste ici un moment, le moment de se retrouver avant d'aller rejoindre leur famille.
Oui, on a créé cette boutique pour un peu financement pour Bozafi, pour acheter du courant, la nourriture, les gens qui ont les prix à l'aéroport, les gens qu'on déporte en Europe, quoi. Quand elle vient, c'est Boza qui allait le prendre et l'accueillir ici à la maison de Boza. Et s'il n'y a pas des habits, on leur donne ici des habits. S'il n'y a pas des chaussures, on leur donne ici des chaussures. Tu vois? Et aussi, c'est ici qu'on prend le dépasse pour préparer la nourriture de Bozafi. Donc voilà, c'est pour ça que la boutique existe.
L'association Bozafi est une association en but non lucratif déjà. Et on ne perçoit pas de financement qui vienne de nos autorités locales. Et pour nous, c'est très important d'être autonome à un moment donné si on veut porter un message. On voit qu'actuellement au Sénégal, ou peut-être dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a des associations qui veulent faire ce que l'on fait là, mais ils ne peuvent pas le faire. Oui, parce que derrière, ils perçoivent beaucoup d'argent qui émane des gouvernements locaux. Donc là, tu es casé à un moment donné, tu ne peux pas t'exprimer librement. Et nous, on préfère être autonome, on préfère être libre dans nos décisions, dans nos discours. On ne veut pas collaborer ainsi avec nos gouvernants.
Actuellement, on est en train de griller les pommes de terre. Après, on va faire griller la viande et le poulet. Après, on va faire une sauce à oignon. Avec des légumes.
C'est une trouvée là, n'est-ce pas? Quelle est le droit de la n'est-ce
pas? Tu
as compris, non?
Au début, peut-être, personne ne connaissait Bozafi. Petit à petit, ils ont commencé à s'intéresser Il y a même des nouveaux membres que nous sommes en train de former là en ce moment. Nous avons créé un groupe pour eux.
On est en train de se faire découvrir maintenant. Ces gosses-là, ils nous voyaient entrer, sortir, faire des projections, parler, aller en caravane, revenir. Ils pensaient qu'on jouait. Ce qu'on faisait là, ce n'était pas bien. Ils nous minimisaient en quelque sorte. Maintenant, ils commencent à savoir que nous, ce qu'on fait, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour nos fils, nos frères, nos enfants. C'est pour l'avenir.
Trois activités que nous faisons annuellement, hein, la commémoration avec notre grand réseau à la faune. On fait une caravane des disparitions chaque année.
Dans cette caravane-là aussi, nous parcourons beaucoup de régions pour faire de la sensibilisation, montrer comment ça se passe dans les frontières, comment les gens meurent au niveau de la mer aussi. Et à chaque fois aussi, dans notre combat, nous dénonçons toujours en insistant sur le fait que la liberté de circulation est un droit.
Quand on organise la caravane des disparus pour aller rendre visite à ses parents qui ont perdu leur mari, leur fils, leur parler, leur dire que tout simplement vous pouvez retrouver votre fils, on va vous épauler pour que vous puissiez aller à la commissariat, porter plainte peut-être, pour qu'ils puissent faire des recherches sur vos enfants. Ça m'a vraiment séduit. Et j'ai automatiquement plongé.
Yes, allô. Test mic.
Gisin, galgalé dedans. Si zonou, libibi le folé. Zonou libibi.
Lors de notre campagne de la caravane pour les disparus, nous avions vécu à un moment donné à Saint-Louis dans une école publique. Nous faisions notre activité de projection sur un peu les routes migratoires et consorts. À un moment donné, nous avons reçu un appel émanant des autorités compétentes comme quoi qu'on devrait stopper nos activités. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, donc on est important. L'État nous considère, donc l'État veut à tout prix nous stopper. Et ça, pour moi, cette chose-là, m'a motivé davantage, ces choses-là m'a boosté davantage de continuer ma lutte, d'être sur la même ligne pour que liberté soit acquise pour tout être humain. Et ça, c'est une réelle motivation pour moi.
Chaque week-end, chaque samedi, on partait dans un coin, on mettait des projections sur la migration, on faisait des open mic, tu vois, des micro-trottoirs expliqués aux gens. Et je pense que le projet, ce n'est pas tout simplement APIX qui approuve ce projet, parce que je pense que voyager, c'est un vœu de tout le monde. Bon, du coup, si les gens ont cette opportunité, des personnes qui luttent pour cette cause, je pense qu'ils vont juste l'approuver. Nous, on a amené une autre communication qui était censurée au Sénégal. On a crié haut et fort liberté de circulation, alors que les gens disaient tout simplement lutte contre l'immigration clandestine. Et les gens ont compris ça comme ça, ça a été logique dans leur tête.
Donc maintenant, même les chefs de quartier de cette localité, les imams, nous interpellent en disant « Mais pourquoi vous ne nous êtes pas dit trop tôt que vous faisiez ça ?» On leur dit « Pourtant, on vous a appelé, mais vous ne croyez pas. »
Je ne dirais pas qu'on est des stars, mais on est des personnes protégées ici. Et ceci, vraiment, est un élément qui nous motive davantage de voir que notre communauté, notre cité nous apprécie et nous encourage sur ce travail parfois risqué qu'on fait.
Situation. African black nation mongi tundu lady trouble. Government need to blow them identity problem. Some nation. Young ghetto boy, young dead virgil be. Mama took a joy, not the love in a paper fee.
Mono tool nellow one night. Naked on the bed and fight. Let him know, let him know, let him know, let him know why.
l'autre initiative qui s'appelle Noël Solid Action pour un peu supporter les enfants qui ont perdu ou bien qui sont victimes de cette migration, que les parents sont partis sans revenir, pour les prêter main forte par rapport à leur éducation scolaire, par rapport à leur suivi de santé.
À un moment donné, c'est difficile d'être enfant orphelin, surtout un enfant d'où ton papa, à un moment donné, ou ta mère t'a laissé derrière pour aller chercher l'Eldorado. Et nous, on ne les oublie pas. Et notre mission première, déjà, c'est remplacer, bien évidemment, ces parents-là qui ont voulu, à un moment donné, faire plaisir à leurs enfants.
Ça, c'est le matériel des beaux affaires. Parce que souvent, on organise des sensibilisations. Et moi, parfois, je viens assister à les programmes. Quoi. Il y a 2 semaines avant que vous venez, il y avait un programme là-bas. C'est de sensibiliser les femmes, à leur expliquer comment Frontex fait à notre pays. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne connaissent pas Frontex, ni la Guardia Civile. On voulait le faire ouvrir les jeux pour qu'ils sachent que Frontex, ce n'est pas une bonne idée de rester au Sénégal. On voulait qu'ils dégagent, c'est pour ça. Aussi expliquer comment Frontex tue les gens en mer. Hein? Parce que souvent, c'est eux qui font tomber les pirogues et après, ils disent que c'est un accident, alors que ce n'est pas vrai.
J'ai entré dans ce qui s'est passé à Melilla, au Maroc, en 2021. J'ai montré les images et je les ai commentées. Quand les Espagnols faisaient du pushback, les Marocains prenaient les Africains qui étaient à Ceuta, à Melilla, et qui les ramenaient au Maroc. J'ai parlé de ce pushback, qu'ils n'avaient pas ce droit. Quand je suis entré directement dans ce message, en montrant les vidéos, le gars est revenu en me disant « Arrêtez !» Ou j'appelle la police tout de suite. Maintenant, c'est le ministre de l'Intérieur qui appelle pour dire que vous arrêtez. Ah bon ? On a dit « Ah bon ?» Et on a rangé nos bagages et on est parti. Ça m'a marqué parce que je savais que maintenant le gouvernement nous écoute. Et quand il nous écoute, donc on va dire ce qu'on a à dire. Parce que c'est ce qu'on cherchait. On cherchait que ces dirigeants-là puissent nous écouter. Parce que quand tu ne dis pas ce qui ne les intéresse pas, ils ne vont pas vous écouter. Mais maintenant, on sait que ce qu'on dit là les intéresse. Et c'est très important.
Il y a une autre chose qui est un peu problématique aussi sur la question des migrations. La situation des déportations qui se passe fréquemment, que nous essayons de supporter hein, avec une petite forme de solidarité. Bon, même si on n'a vraiment pas les moyens, mais quand même, si on reçoit des notes de déportation, on écrit des notes à nos autorités pour leur faire savoir que, OK, on n'est pas d'accord que les Sénégalais soient déportés. Et à un moment donné, si on arrive à une situation de déportation qui arrive, on part à l'aéroport pour les recevoir. Mais aussi, les gens qui n'ont pas envie ou bien qui n'ont pas encore le pouvoir de retourner chez eux, on les héberge chez nous le temps qu'on essaie d'améliorer leur situation. Comme les cas de déportation, très souvent, on ne peut pas les contrecarrer à 100%, mais une fois que les gens arrivent aussi, ils ont des priorités qui sont devant eux pour essayer de s'intégrer dans le système. Et c'est un besoin, hein, c'est un besoin naturel parce qu'ils étaient partis chercher. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas pu y arriver. Mais au retour aussi, même si c'est forcé, il faut s'activer sur quelque chose parce que les gens aussi, il faut qu'ils vivent, quoi.
Palestine, on soutient la Palestine, non? Oui, on leur apporte notre soutien pour leur dire qu'on est tout cœur avec eux, quoi. Oui, et tout le monde devait faire ça, n'est-ce pas?
Toute personne qui envisage de voyager dû à des raisons médicales ou justement personnelles ou pour des raisons de loisirs et de plaisir, cette personne-là a le droit de voyager. Donc le discours, on le porte à chaque fois pour qu'on ne verrouille pas cette personne chez elle, que cette personne ait l'occasion d'aller découvrir d'autres cieux. Moi, j'ai envie d'aller en Europe et de voir la neige tomber. Ça, c'est depuis bas âge. J'ai toujours voulu ça. Et si on me dit que je ne peux pas vivre ce rêve-là, ou si on me fait des obstacles à surmonter et que naturellement ça ne devrait pas se passer ainsi, nous, on porte notre discours par là pour que l'être humain soit respecté et que la dignité de l'homme soit vraiment prise en compte. J'ai pas d'armes, j'ai pas de Kalachnikov ni autre, j'ai pas de bazooka, mais j'ai ma parole, j'ai ma communication et je l'utilise comme arme.
C'est pas seulement pour nous, pour les Sénégalais, mais nous militons même pour les autres pays. Par exemple, quand on a entendu que le premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui même ses grands-parents étaient des migrants, Rishi Sunak construit des prisons au Rwanda pour déporter des Soudanais au Rwanda. Il nous disait qu'il y avait, non, c'était des maisons d'accueil, non. On disait que c'était des prisonniers, c'était des prisons qu'on a construites au Rwanda. Nous, quand on a su ça, on s'est battu ici au Sénégal pour écrire même à la présidence pour lui dire que d'interpeller le gouvernement britannique pour que Rishi Sunak arrête ce qu'il veut faire. Parce que les Soudanais qui quittent le Soudan pour aller en Grande-Bretagne, ils quittaient la guerre, ils fuyaient la guerre. Donc comment fuir la guerre et on te amène dans une autre guerre? Parce qu'au Rwanda, il y avait la guerre aussi. Donc là, on a écrit même au président pour lui dire d'interpeller le président rwandais en lui disant d'arrêter cette mission. Quand on a dit que Rishi Sunak a été remplacé, le nouveau premier ministre a abrogé cette loi. Ce jour-là, on a organisé une fête ici. On était très contents.
Ça, c'est moi qui ai fait ça.
On est fiers de ce que nous faisons. On s'est battu pour la suspension de Frontex ici au Sénégal, parce que Frontex existait au Sénégal. Mais avec les 72 heures pushback Frontex qu'on a organisé pendant 3 ans, Frontex a été suspendu ici au Sénégal et c'est grâce au travail de Bouzafi.
Mais on voulait que ça augmente. Donc on dit, on appelle tout le monde à venir nous aider quoi, pour que Boza ait grandi comme Allah nous fonde, Inch'Allah.
Je me suis battu pour notre race, que je peux dire. Parce que je voyais qu'on a une race qui subit une répression, on a une race qui subit beaucoup de violence. Et ça aussi, bon, j'essaie juste de me battre hein, pour que cela ne se reproduise jamais. Et bon, j'essaie au moins de faire un petit peu de choses. C'est vrai que depuis qu'on a créé notre organisation, on n'a pas changé le monde, mais quand même, on a changé des individus, on a changé des idéologies, tu vois, et on essaie de faire une amélioration continue par rapport à ce que nous faisons. Et quand je pense aussi à les gens qui sont en train de crever, tu vois, avec des questions qui pourraient être résolues, je me dis que, bon, il faut être utile, quoi. On doit être utile pour notre entourage parce que, comme on le dit chez nous, hein, nous les musulmans, Dieu utilise les hommes pour régler le problème des hommes. Dieu n'a jamais tendu sa main pour donner quelque chose à quelqu'un. Donc, on doit se croiser les mains, on doit se, tu vois, donner les bras pour essayer de créer un monde plus juste. Tu vois. Je pense que nous continuerons à nous lutter, nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous allons avoir un monde juste et meilleur.
Voilà, Chronique Amère, c'est fini pour aujourd'hui. On voulait terminer cet épisode avec des pensées de solidarité. Des pensées de solidarité pour toutes les personnes torturées en Libye, notamment pour celles qui ont vu leur tortionnaire, Osama Al-Masnajim, rentrer tranquillement chez lui après avoir été relâché par le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, alors qu'il avait été arrêté en raison d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Des pensées de solidarité avec celles et ceux qui voient partout dans le monde leurs existences menacées par les forces réactionnaires, colonialistes et fascistes. Des pensées de solidarité avec celles qui résistent et s'organisent malgré tout. On tient bon, on ne lâche rien et un jour ils tomberont. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui y ont participé, qui ont traduit, qui ont enregistré, qui ont fait des retours. Merci à Aïda, Fatou, DJ Omar, DJ Luz, Chico, Saliou et toutes les camarades de Bouzafi. Merci encore pour votre accueil à Cité Apix. On est si fiers de partager ces combats avec vous. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM, Radio Dio, Radio Galère, Canal Sud et sur la plateforme Spectre. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique Amère. Et d'ici là, main sur le cœur et point levé.
venez d'écouter l'épisode 30 de Chronique Amère. Vous pouvez retrouver les 30 autres épisodes de ce podcast précieux sur le site de Canal Sud ou de Jet FM. Et vous retrouverez le mois prochain un épisode de Chronique Amère dans Libre Débat. On continue là avec un son glané dans le réseau des rencontres des radios libres. Le 12 février dernier, donc mercredi dernier, la Cour d'appel de Paris devait se prononcer sur l'extradition vers la Hongrie de Gino, militant antifasciste, incarcéré à Fresnes depuis plus de 3 mois. Finalement, le rendu du jugement a été reporté au 12 mars. En attendant, c'est important de diffuser de l'information et de mobiliser pour éviter l'extradition de Gino, dont la faute est d'avoir participé à un contre-rassemblement qui s'opposait à un défilé nazi à Budapest en février 2023. Et il faut dire malheureusement que le 8 février 2025, ce défilé nazi a encore eu lieu. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter Libérer Gino.
Cette émission, réalisée au studio son de la Parole Errante, est consacrée à l'affaire de Gino, camarade antifasciste, milanais, d'origine albanaise, actuellement enfermé à la prison de Fresnes, et en risque d'extradition vers l'Hongrie. Gino! Gino!
Gino! Gino! Rexino Abazage, surnommé Gino, a été arrêté en banlieue parisienne le 12 novembre dernier. Un mandat d'arrêt européen a été prononcé contre lui par les autorités hongroises. Elle demande sa remise parce qu'elle l'accuse d'être impliquée dans les événements survenus à Budapest en février 2023, pendant une mobilisation qui s'opposait à la Journée de l'Honneur, une manifestation de néo-nazis soutenue par le gouvernement d'Orban et qui a eu lieu chaque année. Gino a été interpellé par la SDAT, la sous-direction antiterroriste. Il est détenu en ce moment à la prison de Fresnes, en attente de la décision de la Cour d'appel de Paris sur son extradition.
Par le fait d'avoir participé à cette contre-manifestation, les autorités hongroises l'accusent, avec une vingtaine d'autres militants de divers pays européens, de faire partie d'une organisation criminelle et d'infractions passibles de 25 ans de prison, bien que les preuves avancées soient floues, sans identification claire ni témoignage fiable. La disproportionnalité des peines demandées par rapport aux faits reprochés est évidente. Le cas échéant, Gino risque 16 ans de prison parce que présumé coupable d'une agression contre 2 néo-nazis qui ont écopé d'une incapacité totale de travail de 5 et 6 jours. Lors de la dernière audience qui s'est tenue le 18 décembre 2024 à la Cour d'appel de Paris, la procureure générale a requis l'exécution immédiate du mandat d'arrêt européen, demandant donc aux magistrats de se soumettre aux exigences du gouvernement hongrois. Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2025.
Le cas de l'italienne Ilaria Salis, poursuivie pour les mêmes affaires, est éclairant pour comprendre la situation en Hongrie et ce qu'on appelle l'affaire de Budapest.
Ilaria a été arrêtée et incarcérée en février 2023 à Budapest. Elle a subi 15 mois de détention provisoire dans des conditions inhumaines. Suite à son élection au Parlement européen, elle est actuellement en liberté, protégée par l'immunité parlementaire. Nous lui avons demandé de nous raconter ce qu'est la Journée de l'Honneur et les raisons pour lesquelles un contre-rassemblement international a eu lieu à cette occasion.
La Journée de l'Honneur est un rassemblement annuel où des centaines d'extrémistes de droite et des néo-nazis venus de plusieurs pays européens se réunissent à Budapest pour commémorer les soldats des troupes nazies, allemands et hongrois morts lors d'une tentative échouée de briser la siège soviétique de la ville en 1945. C'est un spectacle indécent. Des militants en uniforme de SS arborent fièrement des croix celtiques et des swastikas, glorifient le nazisme et célèbrent l'Holocauste. Le régime de Viktor Orban, au pouvoir sans interruption depuis 2010, non seulement cette manifestation n'a jamais été sérieusement entravée, mais il semble même qu'elle ait été financée avec des fonds publics. Orban tolère, voire légitime, de tels rassemblements. Il n'est donc guère surprenant que les médias, sous le contrôle direct du gouvernement, décrivent les participants comme des simples citoyens et qualifient l'événement d'apolitique. Heureusement, face à cela, il existe aussi des contre-manifestations réunissant des antifascistes venus de divers pays européens. Parce que le néofascisme nous concerne même lorsqu'il se manifeste au-delà de nos frontières. Par solidarité avec celles et ceux qui les combattent sur place, mais aussi parce qu'un germe qui prend racine quelque part risque toujours de se propager ailleurs.
Nous avons demandé à Ilaria de nous décrire les conditions de sa détention et de son procès, et pourquoi son cas fournit des arguments probants pour refuser la remise de Gino.
J'étais venue à Budapest pour manifester contre la journée de l'honneur. C'est dans ce contexte que j'ai été arrêtée le 11 février 2023. J'ai été extirpée d'un taxi et menottée sans aucune explication. J'ai été accusée de manière arbitraire des faits survenus les jours précédents, dont je suis innocent et je me suis toujours déclarée comme telle. Il n'y a aucune preuve contre moi et je n'ai été identifiée comme faisant partie des agresseurs par aucune des victimes et des témoins. Malgré tout, j'ai été arrêtée et détenue par mesure de précaution en prison en Hongrie pendant 15 mois dans des conditions dégradantes. On m'a laissé des jours sans savon, ni papier toilette, ni serviette hygiénique. Pendant plus d'un mois, j'ai été mise à l'isolement dans une cellule vétuste sans possibilité de recevoir des vêtements et des recharges. J'ai été soumise à un interrogatoire sans mon avocat qui visait à me faire produire une confession. Pendant plus de 6 mois, je n'ai pu parler à ma famille, pas même au téléphone. L'alimentation et les produits d'hygiène étaient toujours insuffisants. Enfermée 23 heures par jour dans une cellule infestée d'insectes, mal éclairée et à peine ventilée, j'étais dans une situation qui l'ont définie comme de la torture blanche. Le procès a commencé après presque un an de détention par mesure de précaution. Avant le début du procès, le parquet a proposé 11 ans de prison ferme si je me déclarais coupable de toutes les accusations. J'ai évidemment refusé et alors je risque une condamnation pouvant aller jusqu'à 24 ans de prison ferme. Pendant les audiences de procès, j'ai été conduite face au juge, pieds et mains liés par une chaîne et tenue en laisse. Un traitement de ce type, en plus d'être humiliant, risque aussi d'influencer négativement les juges. La Commission européenne, dans une réponse à une question sur mon affaire, a répété l'importance du principe de présomption d'innocence et a fait référence à la directive européenne qui interdit de représenter au tribunal les accusés comme des coupables à travers l'utilisation d'instruments de coercition physique, comme justement les chiens. L'injustice de ces traitements et la disproportion des accusations paraissent évidents si l'on compare à l'épisode dont je suis accusée et une autre survenue à Budapest dans les mêmes jours. Le 11 février 2023, un groupe d'une dizaine de néonazis a attaqué par derrière quelques personnes. Les victimes présentent des lésions graves. Un jeune souffre d'une fracture au crâne, du nez cassé, de la perte de 3 dents. La police a arrêté 2 agresseurs en flagrant délit et bien que le parquet ait demandé la détention par mesure de précaution, le tribunal a prononcé pour les 2 suspects une mesure de surveillance légère et les a remis en liberté après 2 jours de détention. Dans mon cas, au contraire, j'ai passé 15 mois en détention préventive et le juge a autorisé la résidence surveillée seulement en mai 2024, après ma candidature au Parlement européen. Et c'est seulement après mon élection, en juin, que j'ai été libérée et que j'ai finalement pu retourner en Italie grâce à l'immunité parlementaire. Les images qui me montrent pieds et mains liés et amenés en laisse à l'audience ont suscité une vague d'indignation publique presque sans précédent dans mon pays. À partir de là, s'est créé un réseau de solidarité très large et des milliers d'antifascistes m'ont soutenu en Italie et au-delà. De différentes manières, beaucoup de gens se sont mobilisés avec un objectif commun. réunis par des idéaux antifascistes, de justice et de liberté. Ma candidature et mon élection au Parlement européen s'insèrent dans ce mouvement de solidarité. Ces dernières années, l'Hongrie est régulièrement rappelée à l'ordre et sanctionnée par les autorités européennes à cause des violations de l'état de droit concernant, entre autres choses, l'indépendance de la magistrature. Dans mon cas, la première étape du jugement n'est même pas encore terminée et pourtant j'ai été condamnée à maintes reprises par M. Viktor Orban et Zoltán Kovács, son porte-parole, comme par d'autres représentants du gouvernement hongrois et par des membres de Fidesz, qui dans leurs déclarations publiques me désignent continuellement comme un criminel ou une terroriste. Dans les pays qui, de la bouche même de son premier ministre, est défini comme une démocratie illibérale, les conditions minimales pour un processus équitable d'antifasciste ou d'opposant politique n'existent plus. S'il était remis à l'Hongrie, Gino sera soumis à un processus injuste dont le verdict est déjà écrit, simplement parce qu'il est un antifasciste. Lutter contre l'extradition de Gino et contre toutes les extraditions vers l'Hongrie signifie donc résister aux injustices et aux menées agressives d'un État autoritaire. Ce serait très grave qu'un pays comme la France décide de collaborer avec l'Hongrie et de lui remettre une personne qui serait soumise à un processus injuste et détenue dans des conditions déshumanisantes.
Maya, personne allemande actuellement emprisonnée en Hongrie, subit le même traitement qu'Ilaria et les victimes de torture. Maya a été emprisonnée à Berlin parce qu'elle faisait partie de 20 militants recherchés par les autorités hongroises. Une fois arrêtée, la cour d'appel a donné un avis favorable à son extradition. Fin juin 2024, en plein milieu de la nuit, Maya se fait sortir de sa cellule pour être amenée en Hongrie sans que les avocats et la famille ne soient prévenus. Bien que la cour constitutionnelle fédérale allemande ait émis à 10h50 une ordonnance suspendant l'extradition, celle-ci est arrivée trop tard, car Maya avait déjà été remis aux autorités hongroises à 10h. De plus, les autorités allemandes ont refusé de fournir des informations sur le lieu où se trouvait Maya, obligeant sa famille à apprendre ces événements par la presse. En tant que personne queer, les risques de sa détention en Hongrie sont très élevés et ses conditions de détention sont inhumaines. La cellule, infestée de cafards, est placée sous vidéosurveillance et constamment fouillée.
En Italie, cette fois-ci, c'est Gabriele, une autre personne ayant participé à la contre-manifestation à Budapest, qui a été inquiétée par une extradition. Sauf que cette fois, la cour d'appel de Milan a donné un avis défavorable. Nous avons discuté avec Matteo Zamboni, avocat spécialisé en droit international, qui a défendu Gabriele et qui défend aussi Ilaria. Nous lui avons demandé de nous expliquer le fonctionnement du mandat d'arrêt européen.
Le mandat d'arrêt européen est une procédure d'extradition simplifiée qui permet à n'importe quel pays membre de l'Union européenne de demander la remise d'un individu qui se trouve dans un autre État de l'Union européenne pour qu'il puisse être jugé ou pour lui faire exécuter sa peine pour un délit. Le mandat est envoyé une fois que l'individu concerné est localisé. Dans les cas échéants, l'Hongrie a envoyé un mandat d'arrêt seulement à la France et n'ayant eu des informations comme quoi l'individu recherché était en France. C'est obligatoire pour les pays de l'Union européenne de s'activer pour répondre aux requêtes de l'Hongrie. Cela s'inscrit dans les principes de la coopération loyale des États membres de l'Union européenne. Les États membres coopèrent entre eux, entre autres choses, pour arrêter les criminels présumés. Et plus précisément, c'est obligatoire de procéder à l'interpellation de la personne visée par les mandats d'arrêt. Et après, c'est obligatoire de s'assurer que cette personne ne prend pas la fuite.
È obbligatorio assicurarsi che questa persona poi non fugga ulteriormente. Sono tenuti a prendere fisicamente questo individuo, portarlo di fronte ad un'autorità.
Il ha l'obbligation d'arrêter fisiquement l'individu, le conduire face à une autorité judiciaire et lui demander s'il accepte ou pas d'être remis au pays che ha emis le mandat.
A Parigi, nella prima udienza, come
comme à Paris lors de la première audience. Ça arrive souvent che l'individu arrêté refuse l'extradition.
Cosa succede in questo caso secondo la legge europea? Inizia un processo nel paese dove l'individuo si trova.
Selon la loi européenne, dans ces cas de figure, commence un procès dans les pays où l'individu se trouve, et c'est un procès face à la Cour d'appel. Les juges de la Cour d'appel doivent statuer si remettre ou pas l'individu objet du mandat d'arrêt.
La consegna dovrebbe essere la decisione naturale. Cioè, il sistema è stato creato apposta per facilitare la consegna di questi individui. Quindi partiamo da un presupposto. Secondo il sistema europeo, la consegna è la regola.
La remise è donc la norma. La non remise è l'exception. E le exceptions sont établies par la loi.
Qual è l'eccezione?
Dans les cas di Gino e dans les autres cas concernés par le mandat d'arrêt émis par l'Hongrie, si discute l'exception la plus importante, la violation des droits fondamentaux. L'article 1er, 3e paragraphe de la décision cadre, établit que le mandat d'arrêt européen ne peut pas avoir lieu s'il y a les risques réels que son exécution puisse comporter une violation des droits fondamentaux.
E arriviamo al caso di Gabriele Marchesi.
Nous voici donc au cas de Gabriele Marchesi.
Situazione molto simile a quella di Gino, si trovava a Milano.
Sa situazione è très similaire a celle di Gino. Il était à Milano, il était l'objet d'un mandat d'arrêt européen, il était arrêté. Ensuite, il a ottenu l'assignation à résidence. Qui il a eu un procès à la Cour d'appel. Cette dernière, le 28 mars 2024, a décidé de ne pas remettre Gabriele Marchesi à l'Hongrie, parce que la Cour d'appel de Milano considérait qu'il y avait un risque réel, c'est-à-dire un risque concret et spécifique de violation des droits fondamentaux.
Et la cosa molto interessante della decisione della Corte di Appello di Milano è stata che la Corte ha riconosciuto il fatto che.
La chose intéressante est que la Cour d'appel a reconnu que même en cas d'extradition, Gabriele Marchesi n'aurait pas passé beaucoup de temps dans les prisons hongroises, seulement le temps de la détention provisoire.
Et
ensuite, a priori, il aurait purgé sa peine en Italie. Mais selon la Cour d'appel, même pour un temps si réduit, la situation des prisons en Hongrie est si grave qu'il y avait les risques réels d'une violation des droits fondamentaux, dans les cas échéants, les risques de torture et de traitements inhumains et dégradants.
Ma è ancora più interessante che la Corte d'appello ha detto che questo rischio.
Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la Cour d'appel a déclaré que ce risque général est toujours présent en Hongrie, comme exposé dans de nombreux rapports ou dans des sentences de la Cour européenne des droits de l'homme, en ce qui concerne les conditions de détention. Mais la Cour d'appel de Milano a déclaré que les risques encourus par Gabriele n'étaient pas seulement les risques généraux de n'importe quelle personne détenue en Hongrie, mais c'était un risque plus grave et spécifique dû aux opinions politiques de Gabriele.
Plus grave ed era un rischio individuale e specifico dovuto alle opinioni politiche di Gabriele Marchesi. La Corte di Milano ha utilizzato dei report che noi avevamo individuato come difesa. Ci sono tantissimi report, per esempio c'è un report del Parlamento Europeo.
La Cour de Milano ha utilisé des rapports fournis par la défense. Par exemple, il y a un rapport du Parlement européen assez récent qui décrit la violence néo-nazie en Hongrie et fait constat d'attaques envers des militants de gauche et contre des personnes faisant partie des minorités ethniques et sexuelles.
Per esempio le persone di origine di una determinata origine etnica o di un determinato orientamento sessuale e ci sono tantissimi report che dicono questa cosa.
Ces nombreux rapports dénoncent l'opacité des liens entre ces groupes néonazis et le gouvernement hongrois.
Nazisti e il governo ungherese, ci sono tantissimi report che dicono chiaramente
che. Ou des rapports énoncent clairement que les agressions perpétrées par des groupes d'extrême droite en Hongrie ne sont pas vraiment punies, ou en tout cas ne sont pas réprimées dans des temps raisonnables et avec la fermeté nécessaire.
E con la necessaria severità. La Corte di Appello di Milano ha chiesto.
La Cour d'appel de Milano a demandé à la Cour hongroise de fournir ce qu'on appelle des assurances diplomatiques, c'est-à-dire des garanties écrites par le gouvernement qui auraient permis d'enlever les doutes sur l'existence d'un tel risque.
Dubbi in merito all'esistenza di questo rischio.
E questo. E cela si fait régulièrement dans les cas du mandat d'arrêt européen.
Il governo ungherese ha.
A ses requêtes, le gouvernement hongrois a répondu avec retard, avec des informations incomplètes et évasives.
Domande della Corte d'appello di Milano. Noi come difesa abbiamo sostenuto che quelle assicurazioni non valessero.
La défense a donc argumenté que ces réponses n'enlevaient pas les risques de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et la Cour d'appel de Milano nous a donné raison. C'est donc avec peu d'informations que la Cour d'appel de Milano a pris la bonne décision.
Ora però ne è passato di tempo da marzo e noi sappiamo benissimo.
Beaucoup de temps est passé depuis et aujourd'hui tout le monde sait ce qu'Ilaria Salis a subi. On sait précisément ce qu'est en train de subir Maya, la personne de citoyenneté allemande qui était remise à l'Hongrie. Il y a des photos, on a des informations et subit les mêmes traitements.
Adesso, dopo tanti mesi, abbiamo molte più informazioni. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa è che sempre perché il processo di Gabriele si è giocato comunque.
Puisque le procès de Gabriele a eu lieu il y a à peu près un an. À l'époque, nous avons beaucoup insisté sur les conditions de détention. Mais plusieurs mois se sont écoulés et d'autres choses se sont passées. En particulier, à partir de février 2024. Beaucoup de représentants importants du gouvernement hongrois, tels les ministres des Affaires étrangères et les porte-parole du président Orbán, se sont exprimés en affirmant la culpabilité d'Ilaria Salis et des autres personnes inculpées au procès de Budapest. Les porte-parole d'Orbán a même écrit sur Twitter que Ilaria Salis et ses camarades sont des communistes terroristes et que comme tels, ils doivent être punis.
Ilaria Salis et ses compagnons sont des communistes terroristes et que, en quanto tale, vanno puniti. Ora, se messa in relazione con i problemi sistemici di
indipendenza. Si on relie ces déclarations avec les problèmes systémiques concernant l'indépendance de la magistrature hongroise, les déclarations de cette sorte rendent difficile croire que l'Hongrie puisse garantir un juste procès. Au contraire, c'est légitime d'affirmer que ces déclarations sont une grave violation au droit à la présomption d'innocence, qui au niveau européen est garantie par l'article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Una importante differenza tra il caso di Gabriele Marchesi a Milano e il caso di Gino a Parigi è che a Milano il procuratore generale della Corte d'Appello.
Une différence importante entre le cas de Gabriele Marchesi a Milano e celui di Gino a Parigi è che il procuratore generale della Cour d'Appel de Milano aveva donné un avis défavorable à la remise de Gabriele. Et c'est reliant à tous les arguments que nous avons amenés en tant que défense.
Il procuratore della
Par contre, à Paris, le procureur de la Cour d'appel exprimait un avis favorable à la remise, en étalant une argumentation très simpliste qui tenait aucunement en considération les contextes dans lesquels le procès aura lieu, ni la situation en Hongrie.
L'effort de la procureure pour éviter de mépriser les droits fondamentaux paraît inversement proportionnel à l'effort mis en place pour arrêter Gino. Ses avocats, Laurent Pasquet-Marinacci et Yuri Krasuya, dénoncent une inquiétante dimension politique, ils déclarent.
D'une part, il y a un interventionnisme politique du pouvoir hongrois, via des déclarations publiques suite à l'arrestation de notre client. Et d'autre part, l'interpellation a été faite par la SDAT, la sous-direction antiterroriste, ce qui n'est pas du tout habituel pour une affaire de droit commun. Ils ont dénoncé aussi la pression des autorités judiciaires hongroises qui réclament plusieurs autres personnes à travers toute l'Union européenne.
Nous avons posé des questions concernant sa remise en liberté. Si la Cour d'appel refuse l'extradition de Gino, sera-t-il remis en liberté? Si oui, pourra-t-il se déplacer librement?
La décision di consegnare o meno viene presa dalla Corte di appello.
La décision concernant la remise ou pas est prise par la Cour d'appel.
Per tutte e due le parti, quindi se la Corte d'appello decide consegna, la persona richiesta può andare in Corte di Cassazione, viceversa.
Les deux parties peuvent faire un recours en cassation. Par contre, une fois que la Cour de cassation se prononce sur ces mandats d'arrêt précis, la sentence est définitive.
La
France n'a pas le droit de garder Gino en détention pour des éventuels délits qu'il aurait commis en Hongrie. Il peut le détenir en prison ou l'assigner à résidence, seulement le temps réduit de la prise de décision sur l'éventuelle remise ou pas. Si la décision de ne pas l'extrader, la France ne peut absolument pas garder Gino en détention et elle est obligée de le remettre en liberté. En général, le problème est que si l'individu voyage en Europe, par exemple en Allemagne, l'Hongrie a le droit d'émettre un nouveau mandat d'arrêt pour en exiger la remise. Si l'individu va, par exemple, de la France aux États-Unis, dans ces cas, le risque, c'est une demande d'extradition. Donc, effectivement, l'individu reste sous l'épée de Damoclès, dans le sens que théoriquement, il pourrait être l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans chaque nouveau pays où il se rend, et donc être soumis à un nouveau procès.
Pour terminer, nous aimerions partager un extrait d'un texte écrit par Maya depuis sa cellule.
Le poison insidieux, l'acceptation. C'est probablement ce qui m'a poussé à tenir ce discours. L'orgueil, l'admiration pour toutes ces personnes qui ne permettent pas tout cela, mais qui au contraire, chaque jour, rendent visible une société queer, inclusive, antifasciste, féministe, critique, antiraciste, ouverte et solidaire, dans les grandes et les petites choses. Quand le ciel s'assombrit, regardons-nous, les uns, les unes, les autres. Comment l'humanité pourrait-elle se limiter à cela? Je voudrais vous encourager à dire et à montrer combien de force réside en vous et combien de choses vous accomplissez chaque jour, à grande ou à petite échelle. Malgré le poison de la société, de la répression autoritaire jusqu'au populisme le plus fou, vous vous unissez, restez ferme et faites plus que crier des mots creux. Votre solidarité arrive à son but, soyez-en sûrs, soyez motivés et continuez à lutter. Vous parviendrez à changer les choses.
Il est fondamental de maintenir une forte pression médiatique et politique autour de cette affaire.
Seule une mobilisation large et soutenue permettra d'éviter l'extradition de Gino et obtenir la libération de notre camarade.
Le 18 janvier 2025, un événement se tiendra de 14h à minuit à la Parole Errante à Montreuil. Prise de parole, table ronde, concerts sont au programme. Cet événement servira à récolter des fonds pour les frais de justice et fournir à Gino le nécessaire pour la vie en prison.
Ce sera l'occasion de montrer, encore une fois, notre solidarité envers Gino, tout en ayant le regard tourné vers nos camarades poursuivis et enfermés ailleurs.
Pour suivre la mobilisation et rester informé, vous pouvez suivre la page Instagram « Libérer Gino ».
Par ailleurs, vous pouvez lui écrire par voie postale, disponible sur les différents canaux de soutien.
En parlant de lettres, j'ai pu échanger avec Gino, notamment sur l'espoir et sur le fait de se mobiliser. Il m'a mentionné une musique d'un groupe qui s'appelle Borghesia. No Hope, No Fear. Dédicace à toi, Gino. Libéro Gino.
Libérez tous les antifas.
Mobilisons-nous.
Savage place.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous venez d'écouter Libérer Gino, une émission du comité de soutien contre l'extradition de Gino réalisée par le studio son de la parole errante. Pour actualisation, donc, depuis que ce podcast a été réalisé, finalement, le jugement du 15 janvier, on n'a toujours pas la réponse qui devait être donnée le 12 février. Finalement, le rendu est reporté au 12 mars. Donc, la mobilisation, elle est toujours importante pour éviter l'extradition vers la Hongrie de Gino. Libérez Gino, libérez tous les antifas. Et on se retrouve la semaine prochaine, où on ne se retrouve pas vraiment, puisque ça sera le créneau de Voral, l'émission des archives orales LGBT. Je vous souhaite une bonne semaine, et puis restez sur Radio Galère 88.4.
Some days I feel like a natural woman, but some days I feel like a victim of this wicked system.
I'll be honest with you, I hate war, in all its forms. Physical, psychological, spiritual, emotional, environmental. I hate war. And I hate having to struggle. I honestly do, because I wish I had been born into a world where it was unnecessary. This context of struggle and being a warrior and being a struggler has been forced on me by oppression. Otherwise, I would be a sculptor or a gardener, a carpenter. You know, I would be free to be so much more.
Subservient to evil. And so that's the only way.
some days, I want to charge through the supermarket in tribal war paint, pushing a shopping cart full of Molotov cocktails and destroy all the poison that is killing us on every aisle, then move on to the drugstores and fast food drive-thrus, throwing cocktail hook shots in the middle of their big meal deals. Then again, some days I want to meditate, reach a state of bliss, kiss my cares goodbye, and lie on my mat until I lose touch with this ungodly world.